Jusqu'au 29 novembre, pendant le rendez-vous Air France, vivez et écoutez toute la magie d'un premier rendez-vous.
Wow.
C'est le moment de prendre rendez-vous avec le monde. Par exemple, Montréal, à partir de 269 euros au départ de Paris. Et avec Air France Protect, vos billets sont 100% modifiables et remboursables jusqu'à votre départ.
Tarifs TTC aller-retour, frais de service airfrance.fr inclus, bagages en soute non inclus pour des départs du 17 janvier au 20 février 2022.
Deuxième jour de notre série consacrée à l'économie chez Proust. Aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté des Verts du Rhin. La recherche du temps perdu nous fait pénétrer dans les salons de la haute société lorsque le pouvoir économique passe entre les mains des industriels et des financiers. Nous allons observer jusqu'à 15h le merveilleux aquarium qui, selon le narrateur, dévoile la vie luxueuse de ces gens, aussi extraordinaire pour les pauvres que celle de poissons et de mollusques. Merci d'écouter France Culture et bienvenue à tous dans Rendez-vous l'écho. Quand la recherche nous parle d'économie, c'est notre sujet aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Cécile Leblanc, maîtresse de conférences en littérature à l'Université Sorbonne Nouvelle et grande spécialiste de Proust. Également avec nous, Clément Paradis, enseignant en esthétique à Sorbonne Nouvelle, auteur d'articles consacrés au capitalisme financier dans la recherche du temps perdu. Une émission inventée par Thibaut Moméja, Aliette Ovine, Mathilde Tonfourcade et Théo Giangreco. Cécile Leblanc et Clément Paradis, bonjour.
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 Merci beaucoup d'être à ce micro aujourd'hui. Alors si la recherche du temps perdu nous parle aussi d'économie, Cécile Leblanc, c'est parce que Proust place ses personnages au cœur de la société mondaine de son temps, en plein essor du capitalisme financier et industriel.
Oui, c'est tout à fait exact. C'est-à-dire que Proust a eu le souci de prendre en quelque sorte des familles, des castes, on pourrait dire. Il emploie lui-même le terme en disant que c'est quasiment des castes indiennes, c'est-à-dire des microcosmes fermés qui vont réagir au capitalisme, sachant que pour Proust, le capitalisme existe. Ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas critique vis-à-vis de ce capitalisme, mais il existe, on ne peut pas s'en passer. Et donc, son sujet, c'est d'étudier comment ces familles réagissent au capitalisme. Et comment le capitalisme permettra des transfuges de classe, ce qu'est en particulier Madame Verdurin.
Alors Proust nous donne à voir la société mondaine qu'il connaît, qu'il fréquente. Pourtant, la recherche du temps perdu ne doit pas être considérée comme une œuvre autobiographique, Clément Paradis.
Non, c'est très particulier à la recherche du temps perdu parce que c'est un roman du jeu. On a affaire à un narrateur qui s'exprime à la première personne, il y a un héros qui vit, qui traverse ce temps perdu, ce temps de la mondanité, et en même temps, Proust se dégage lui-même de ce récit-là, et il précise même en un point du roman que tout ce qui est dans cet ouvrage est inventé de A à Z. Il n'y a pas de personnage à clé, et d'ailleurs il y a qu'un seul petit élément de réalité qu'il se réserve, et c'est justement pour parler de cafetiers milliardaires qui ont fait fortune, mais en dehors de la bourse.
Alors ce que le narrateur va découvrir au fur et à mesure des centaines, des milliers de pages de la recherche, Clément Paradis, c'est que la fréquentation de cette haute société parisienne l'éloigne de son véritable but, qui est d'écrire.
Oui, c'est ça. C'est à la recherche du temps perdu, c'est la traversée du temps perdu. Et le temps perdu, c'est aussi un temps perdu dans la mondanité. Au début du roman, on apprend que ce héros est l'héritier d'une grande fortune, d'une tante qu'il n'a pas très bien connue, mais voilà. Et donc, il se retrouve à pouvoir être oisif. Et comme il est fasciné par la haute bourgeoisie et surtout l'aristocratie de son époque, il va pouvoir frayer avec cette mondanité et découvrir, approcher finalement des figures qu'il ne voyait que de loin et qu'il fascinait. Et c'est un voyage qui va être déceptif, pendant lequel il va se demander s'il est écrivain ou pas, et finalement il va se rendre compte que tout en s'étant éloigné de l'écriture à travers la mondanité, eh bien il va pouvoir la rejoindre en la présentant d'une nouvelle manière et en ressaisissant ce temps perdu par l'écriture.
Alors sur ces retrouvailles avec l'écriture, je vous propose d'écouter Roland Barthes qui nous parle de Proust dans une archive de la radiodiffusion française de 1963.
Proust donne une leçon extraordinaire. Il apprend d'abord que on ne peut pas écrire sans accepter une ascèse totale de la vie, même de la vie quotidienne. Il faut renoncer à la frivolité, ce que Proust appelle la frivolité, c'est-à-dire à la mondanité. Il faut s'enfermer, c'est un acte total, et la frivolité ne deviendra plus qu'une sorte de réalité rêvée qui sera le sujet du livre, mais l'auteur lui-même ne vivra plus dans la frivolité. Autrement dit, la première leçon de Proust, c'est pour les écrivains de poser une sorte d'alternative radicale, et je dirais presque chirurgicale, entre écrire d'une part et tout le reste d'autre part.
Cécile Leblanc, grâce à l'ascèse qui permet l'écriture, le temps perdu sera retrouvé.
Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Roland Barthes, dans la mesure où je pense que Proust n'est jamais vraiment tombé dans cette ascèse, parce que enfermé dans sa chambre, il reste très ouvert au monde, il se tient au courant, en particulier par une correspondance très volumineuse, et il a des périscopes un peu partout. Hein. Quand il peut pas sortir, il envoie ses amis, il se fait raconter, et donc cette frivolité, cette mondanité, il me semble qu'on pourrait la voir comme un retour sur investissement. C'est-à-dire que Proust pourrait se déplorer en quelque sorte cette mondanité, mais en fait c'est cette mondanité qui est la substance du livre. Et comme il le dit bien pour Bergotte, Bergotte regrettait d'avoir dépensé de l'argent pour des femmes qu'il avait aimées, mais s'est dit ensuite que finalement, puisque ces femmes l'avaient rendu malheureux et qu'elles lui avaient permis d'écrire des romans d'amour qui lui-même lui rapportaient de l'argent. Bon, ça c'est l'écrivain fictif Bergotte. Mais pour Proust, on n'est pas très éloigné de ça. Alors, peut-être ces livres ne lui ont pas rapporté beaucoup d'argent, mais il y a eu un investissement dans cette mondanité, cette frivolité, qu'il a rendu justement par l'écriture. Donc, à mon avis, c'est son investissement dans le monde qui lui a permis d'écrire.
Et alors, est-ce que ça, Cécile Leblanc, ça nous laisse entendre que peut-être, à l'instar de Balzac, dont on parlait hier, on parlait de ce rapport de Balzac à l'argent et de la place de l'argent dans son œuvre, est-ce que la recherche du temps perdu peut être considérée comme une œuvre réaliste ?
Du point de vue de l'argent, des spéculations boursières, certainement, parce que il montre bien quel rôle finalement a cette circulation de l'argent, et surtout comment, d'une certaine façon, il conditionne quelque chose de fondamental, qui est la spéculation, par exemple sur l'art. Hein, tous les personnages spéculent sur l'art, sur l'amour. Swann aussi fait des investissements amoureux qui ne sont pas forcément très rentables. Et donc c'est vraiment, on est au cœur de ce monde de la circulation monétaire et des valeurs, et qui est, enfin, la recherche est vraiment construite là-dessus.
Et en même temps, Proust a dénoncé, je crois, ce qu'il appelait la littérature de notation, qui consiste à retranscrire ce qui est observé, Clément Paradis.
Oui, il y a un passage de La Recherche où il explique que la littérature de notation, c'est certainement pas son truc. Le défilé cinématographique des choses, alors c'est pas une attaque contre le cinéma, c'est vraiment l'idée que À la recherche du temps perdu, ce n'est pas un documentaire, et que le vrai roman, la vraie littérature, ce n'est pas du documentaire et de l'accumulation de faits. Donc c'est pour ça qu'il se lance dans cette expérience d'un roman où tout est inventé, rien n'est à clé. Et en même temps, il relate bien la société de son temps. Il s'en fait l'écho, mais il va s'en faire l'écho d'une autre manière que l'a fait le roman réaliste, à travers des anecdotes, à travers des reprises, des souvenirs, la mémoire involontaire, tout un tas de dispositifs stylistiques et romanesques qui ne sont pas à l'origine dans la littérature réaliste, mais que lui, il invente.
Alors, on va voir quelle forme prend cette place de l'économie dans son œuvre, puisque la question économique existe bel et bien, mais elle a souvent été mise au second plan dans les analyses littéraires. Cécile Leblanc, comment l'expliquer ?
Cette économie, enfin, elle a été mise au second plan, oui, je pense, parce que on n'a pas pris toujours Proust au sérieux sur justement cet aspect peut-être réaliste ou social. Hein, on a voulu en faire un roman de la mémoire, ce que c'est, bien évidemment, on va pas le nier, mais on l'a pas pris au sérieux sur cette analyse de la société de son temps. Et ce qui me semble le plus intéressant ou le plus magique chez Proust, c'est la façon dont il arrive à attirer le monde à lui, à son œuvre. Hein, par exemple, quand il se retrouve à Venise et qu'il essaye d'oublier la fameuse Albertine qui est morte, il dit qu'il l'a mise en prison dans son cœur, il a fermé à double tour, il a jeté la clé. Mais elle va quand même s'échapper de cette prison, elle revient le hanter, et justement à travers une formulation de bourse. C'est-à-dire qu'il écrit à son, le narrateur écrit à son coulissier. Le coulissier, c'était ceux qui plaçaient les actions. Enfin, non, plutôt ce qui n'était pas coté au marché de la bourse, je crois. Et donc, le mot du coulissier, je soignerai vos reports, qui est un mot absolument technique, devient en fait une madeleine. C'est-à-dire que ça renvoie à je soignais Mademoiselle Albertine, qui n'a rien à voir au départ, puisque il s'agissait d'Albertine dans les bains. Et ce mot du banquier lui fait sortir Albertine et finalement, comme la Madeleine, une séance de mémoire involontaire.
Il y a une métaphore, effectivement, qui court tout au long du roman, autour de la finance, de la bourse, des banquiers, on va en parler, mais sur ces écrivains ou ces critiques littéraires qui ont peut-être sous-estimé cette dimension économique dans la recherche du temps perdu, je voudrais vous faire entendre Julien Gracq, qui considère que la société décrite dans la recherche vit en dehors de toute forme de réalité économique. Il l'explique dans son essai paru en 1980 en lisant, en écrivant. Le côté de Guermantes reste la partie à la fois la plus miroitante et la plus superficielle de la recherche. Elle ne relève réellement que du romancier mondain, le monocle vissé à l'œil et qui circule à travers les salons. Mais tout le solide qui supporte ces irisations mondaines, la composition, les confluences et l'évolution de la fortune des Guermantes, les relations du duc avec son agent de change, son banquier, son notaire, ses régisseurs, toute la coupe en profondeur balzacienne qui donnerait à ces reflets de glace une troisième dimension, se font ici explicitement désirer. Un statut économique apparemment fixe de la classe régnante autorise les chroniques cancanières en milieu clos du grand siècle, de Talmont à Saint-Simon. Il ne cautionne plus, dans l'époque de rapides mutations foncières et financières à laquelle est confronté le narrateur, l'éthique et les finesses salonardes du milieu Guermantes, déjà menacées en profondeur par la poussée vers du Rhin, laquelle relève à l'évidence de tout autre motif que des fluctuations du snobisme.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
Nous sommes toujours en compagnie de Cécile Blanc et de Leblanc, pardon, et de Clément Paradis, et nous sommes à la recherche de l'économie dans l'œuvre de Proust. Que vous inspire cet extrait que l'on vient d'entendre, Clément Paradis ?
Beaucoup de respect, parce que on a affaire à Julien Gracq, c'est un des plus grands romanciers du deuxième XXe siècle. Et en même temps, on peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a quelque chose à côté de laquelle il est passé. Parce que c'est pas parce que Proust n'écrit pas comme Balzac et que Proust n'a pas ce style réaliste que, en fait, on ne peut pas déceler l'argent et le soubassement financier de l'aristocratie à la recherche du temps perdu. Julien Gracq, il dit quelque chose qui est vrai, plus tard dans le livre, il dit, on a l'impression que ces personnages, ils ont franchi la vitesse de libération. Ça, c'est comme des comètes qui seraient sortis de l'atmosphère, ils flottent comme ça. On dirait aujourd'hui, ce sont des personnages hors sol. Et c'est vrai, quand on lit à la recherche du temps perdu, les fortunes sont inépuisables. Proust s'est même amusé à enrichir encore ces personnages. Quand on prend les manuscrits, on voit des chiffres et ils sont encore plus riches dans le livre qui est paru. Donc, d'une certaine manière, Julien Gracq a raison. Et d'une autre manière, eh bien, Proust, il dit à un tout petit moment de la recherche, il donne le code de cette mondanité, il dit « La mondanité, c'est la transmutation d'éléments très denses en subtilité. » C'est-à-dire que dès que l'argent pénètre ce monde-là, eh bien, il est dépensé, il devient de la culture, il devient de l'apparat. Donc, on le voit plus, mais il est encore partout.
Et il devient en particulier cet argent des paris, des investissements boursiers. Il y a même des dialogues qui font directement référence aux fluctuations de la bourse, Clément Paradis.
Oui, bien sûr. Dès le début du roman, en fait, dès le moment où ce héros qu'on découvre, eh bien, on se rend compte qu'il va pouvoir vivre cette vie d'oisiveté grâce à un héritage que son père doit gérer et qu'il va placer en bourse. Et il prend, pour ce faire, il prend les conseils auprès d'un diplomate qui s'appelle Norpois, qui va s'avérer absolument désastreux et qui sera un sujet de moquerie tout au long de l'œuvre. Et le père énumère les placements et l'enfant découvre ses titres de bourse. Et à l'époque, il n'y a pas la banque en ligne. Donc, ces titres de bourse, ce sont vraiment des billets, des grandes feuilles de papier ornées qui font preuve d'un grand effort typographique. Et finalement, pour un enfant qui aime le romantisme et qui a vu les couvertures des ouvrages romantiques, eh bien, on découvre ces objets illustrés avec la même fascination.
Il faut peut-être expliquer que en cette fin du 19e siècle, on assiste à une accélération des investissements dans les banques, les transports, les distributions de gaz et d'eau, Cécile Leblanc. Et en même temps, c'est aussi un moment où s'accélèrent les faillites. Alors, il y a eu celle de l'Union Générale quelques décennies plus tôt. Et puis, des scandales financiers comme celui du canal de Panama. Tout cet engouement pour la spéculation s'inscrit dans ce contexte bien particulier, Cécile Leblanc.
Oui, il y en a beaucoup de traces dans le roman. La gouvernante du narrateur, la fameuse Françoise, est ruinée par le Panama. Bon, la guerre de 14 aussi va jouer son rôle, puisque si Madame Verdurin devient aussi princesse de Guermantes, c'est qu'elle, elle est restée très riche en tant que bourgeoise, mais qu'un certain nombre d'aristocrates ont été ruinés, en particulier ceux qui étaient liés à l'Allemagne, comme les Guermantes. Donc le prince de Guermantes a beaucoup perdu. Donc tous les personnages, en quelque sorte, sont impactés par la finance, par la bourse. Et Proust pousse même l'ironie à introduire les discussions boursières dans les rapports amoureux. Il y a une fameuse scène où Monsieur de Norpois et sa très vieille maîtresse, la marquise de Villeparisis, bon, sont censés parler comme un vieux couple, mais leur dialogue amoureux, c'est « Est-ce que tu as vendu mes Suez ?»« Ah non, pour l'instant, il vaut mieux les réserver parce que le pétrole monte ou je ne sais quoi. » Donc ça devient un véritable dialogue amoureux. De même que Swann, d'ailleurs, quand il réfléchit à ses rapports avec Odette, bon, pense à son banquier et le mot « banquier », lui renvoie à l'idée « Ah oui, il faut que je sorte de l'argent pour Odette, parce que si j'arrête de l'entretenir, elle va aller vers d'autres hommes. » Et donc, systématiquement, ces boursicotages, en quelque sorte, pénètrent absolument tout.
Mais Marcel Proust, ou peut-être le narrateur, a une vision des banquiers à peu près aussi mauvaise que celle des médecins, Cécile Leblanc.
Oui, alors ça, je pense que c'est l'indice le plus pertinent pour montrer que Proust établit une véritable satire du monde de la bourse et de la finance. C'est que pour lui, on est en plein capitalisme et donc personne ne peut le nier, il faut faire avec. Mais pour lui, comme il l'explique, finalement, demander conseil à des banquiers, c'est exactement comme demander conseil à des médecins. De toute façon, ni les uns ni les autres n'ont la vérité et ne pourront faire quelque chose. Donc les banquiers vous ruineront forcément, les médecins ne vous soigneront pas. Mais, comme dit Proust, de toute façon, il faut faire avec et on continue à y croire, à croire à la médecine et à croire à la bourse.
Alors c'est intéressant parce qu'à la fois, il y a une certaine critique de la collusion entre le capitalisme financier et les hautes sphères de la société dans l'œuvre de Proust. Et en même temps, on a le sentiment qu'il n'y a pas véritablement de jugement de valeur sur la spéculation, Clément au paradis, là où d'autres romans la condamnent ou au contraire la portent au nu.
Non, Proust n'est pas moraliste sur ce sujet-là, aussi parce que dans sa vie, c'est vrai que lui est oisif, parce qu'il a un capital qui est plus ou moins bien géré par lui et par d'autres. Donc la bourse, la finance, c'est pas le support d'une indignation morale. C'est plutôt le support de réflexion esthétique et le support de réflexion sociale. C'est-à-dire que on observe comment, eh bien, toute une irisation sociale a pour sous-bassement l'économie et voilà.
Alors même que le narrateur ou Monsieur Verdurin sont presque ruinés à cause de la bourse dans la recherche Clément Paradis.
Il y a quelques ruines dans À la recherche du temps perdu tout de même, mais il y a aussi des succès retentissants, il y a de beaux placements et puis finalement les ruines. Pour beaucoup de personnages, elles sont assez indolores, c'est-à-dire que Françoise a beau être ruinée par Panama, elle va continuer à vivre avec le narrateur et devenir une des actrices du roman à venir. Le héros lui-même est ruiné, hein. Les investissements conseillés par Norpois, ça s'avère désastreux, il perd les 4/5 de sa fortune. Est-ce qu'il s'en porte bien plus mal? Finalement, non, ça va accélérer son cheminement vers la littérature.
Mais effectivement, ses actions et ses titres frappent l'imagination du narrateur enfant.
Thank you.
Pour certaines valeurs anciennes, mon père, ne se rappelant plus exactement les noms, facile à confondre avec ceux d'actions similaires, ouvrit un tiroir et montra les titres eux-mêmes à l'ambassadeur. Leur vue me charma. Ils étaient enjolivés de flèches, de cathédrales et de figures allégoriques, comme certaines vieilles publications romantiques que j'avais feuilletées autrefois. Tout ce qui est d'un même temps se ressemble. Les artistes qui illustrent les poèmes d'une époque sont les mêmes qui font travailler pour elles les sociétés financières. Et rien ne fait mieux penser à certaines livraisons de Notre-Dame de Paris et d'œuvres de Gérard de Nerval, telles qu'elles étaient accrochées à la devanture de l'épicerie de Combray, que, dans son encadrement rectangulaire et fleuri que supportaient des divinités fluviales, une action nominative de la Compagnie des Eaux. Voilà un extrait du côté de chez Swann. C'est vers l'enseignant en esthétique que je me tourne, Clément Paradis, puisque c'est avant tout le caractère esthétique des actions qui intéresse, selon vous, le narrateur.
Oui, alors il faut voir aussi que là, on est dans la perspective, c'est le héros enfant qui est confronté à ce portefeuille d'actions du père qui va lui être légué. Et comme bien souvent dans le roman, tout le monde entier prétexte à réflexion sur l'esthétique. Et la bourse n'échappe pas à ça. Alors ça peut être très décevant quand on regarde ça avec un œil d'économiste. Et puis en même temps, on se rend compte qu'on apprend des choses véritablement, même sur la culture visuelle de l'époque, puisque Proust nous dit que c'est pas du fantasme esthétique, c'est que les artistes travaillent. Les artistes travaillent aussi bien à l'illustration des romans de Victor Hugo que à l'illustration de ces titres de bourse. Donc, il y a une réalité, finalement. Il y a un réalisme boursier qui s'explique ici, qui est approché autrement. Et en même temps, il y a une attention esthétique parce que ces titres de bourse, eh bien, ils agissent comme beaucoup d'éléments du réel qui intéressent le narrateur, c'est-à-dire que ce sont des petits fragments signifiants du réel qui en même temps portent avec eux un énorme imaginaire. Des mines placées, travaillées par des hommes en Amérique latine, en Russie, etc. Et ces petits fragments du réel, ben, ce sont des supports de l'imaginaire, du fantasme. Et ça, évidemment, c'est un moteur pour le romanesque.
Cécile Leblanc, vous parliez de la critique des banquiers dans La recherche du temps perdu. Et en même temps, la bourse est un élément très fort du réel dans la recherche. Et elle est valorisée en tant que telle.
Alors, je ne pense pas qu'elle soit valorisée, bien au contraire. Je pense que Proust est extrêmement ironique vis-à-vis de tout ce qui est justement opération de bourse. Peut-être précisément parce que c'est détaché en effet de toute morale, de tout effort du travail et de tout mérite, pourrait-on dire. Et peut-être que l'élément le plus important que montre Proust sur la bourse, c'est le hasard, c'est-à-dire que cette spéculation, c'est finalement du hasard, et toute la recherche est faite de valeurs qui montent et qui descendent, y compris l'art, justement, qui pourrait pratiquement être indexé sur la bourse. Il le note souvent, d'ailleurs, dans les brouillons, comme pour se repérer, wagnérisme, anti-wagnérisme, Debussy, Stravinskisme, et anti-germanisme. Tout se remplace partout. Et d'une certaine façon, les actions, c'est pareil. Il y a un imaginaire, et puis ça monte, ça descend, tout ça ne sont que des valeurs. Et il montre bien, par exemple, que un duc ruiné, pour ses fournisseurs, il est beaucoup moins en valeur que un bourgeois riche. En revanche, le duc ruiné, quand il rentre chez lui, tout le monde le salue parce qu'il reste un duc, mais ruiné. Donc, les perspectives sont très différentes, en effet, selon les classes sociales et la société.
Alors, ce sera intéressant, effectivement, de voir quel regard porte le narrateur sur une bourgeoisie qui est en pleine ascension et sur une aristocratie qui, pour une partie d'entre ses membres, subit un certain recul. Marcel Proust, qui a évidemment inspiré une quantité innombrable de romanciers et aussi quelques chanteurs.
On oublie hier est loin, si loin d'aujourd'hui, mais il m'arrive souvent de rêver encore à l'adolescent que je ne suis plus. On sourit en revoyant sur les photos jaunies l'air un peu trop sûr.
paraître plus vieux. J'irais bien refaire un tour du côté de chez Swann, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et se laisser t'embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin. Pour qu'on retrouve soudain la magie d'un matin et l'on oublie l'avenir pour quelques souvenirs.
Du côté de chez Swann, le chanteur Dave sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho. Nous sommes toujours à la recherche de l'économie chez Proust. Cécile Leblanc et Clément Paradis sont avec nous. Une émission réalisée par Somaya Dabesh et mise en onde par Jean-Frédéric. Clément Paradis et Cécile Leblanc, nous avons parlé de la spéculation et de la bourse dans la recherche du temps perdu. Alors, la finance tient une place de premier plan dans l'œuvre de Proust, mais la recherche est peut-être surtout le grand roman de la mondanité, comme on commençait à le dire au début de cette émission. L'œuvre de Proust est le miroir des transformations qui touchent la haute société d'avant-guerre. De plus en plus, le pouvoir économique se concentre dans les usines et non plus dans la détention de terres.
Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui est très frappant quand on lit, quand on prend aujourd'hui à la recherche du temps perdu, on ouvre et on lit très vite des récits de salons où se croisent des princesses, des ducs, etc. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas eu de révolution française. Et on pourrait se dire, c'est complètement fantasmé. Et en fait, c'est vraiment ce qui se passe dans la mondanité française de l'époque. C'est la survivance de l'ancien régime, dont nombreux historiens ont parlé, et Proust se fait l'écho de ça. Mais cette survivance de l'ancien régime, elle se fait sans roi, sans cassette royale. Donc comment fait l'aristocratie pour survivre sans le pouvoir qui lui était alloué? Eh bien, Proust nous le glisse à un moment de la recherche et il nous dit que la princesse de Parme, dans sa tête, elle se récite un petit catéchisme. Elle se dit « Dieu a voulu, dans sa grande bonté, que tu possèdes presque toutes les actions du canal de Suez et presque autant de Royal Dutch que Edmond Rothschild. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans leur esprit, y a plus de roi, mais Dieu avait élu le roi, Dieu a élu maintenant la finance pour remplacer, renflouer les caisses.
Alors ce qu'il faut peut-être effectivement préciser, Cécile Leblanc, c'est que cette vision selon laquelle, dans la recherche du temps perdu, le narrateur mettrait en scène la perte de vitesse de l'aristocratie et la montée en puissance de la bourgeoisie, c'est une vision qui est peut-être un petit peu trop simpliste, même si elle contient une part de vérité.
Oui, alors je pense qu'effectivement c'est une vision simpliste parce que ce que montre en effet la recherche, c'est la faculté d'adaptation aussi de l'aristocratie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous ruinés, ou en tout cas, ils ont su prendre le tournant du capitalisme. C'est ce que disait mon collègue à l'instant. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'aristocrates ont pris ce tournant, ont su investir en valeur boursière, dans la finance, et donc ont toujours des fortunes colossales. Et ces fortunes colossales, ils vont s'en servir pour investir en particulier dans l'art et dans le mécénat. Ce que fait aussi d'ailleurs la bourgeoisie, et ce qui permettra aux uns et aux autres, puisque c'est un moyen commun, de se rejoindre en quelque sorte dans le temps retrouvé.
Alors dans le premier volume de la recherche, en particulier, le narrateur fréquente le salon des Verdurins, et puis il y amène un jour Charles Morel, le fils d'un domestique qui rêve de s'imposer dans la haute société.
Que monsieur me permette de lui présenter mes très respectueuses salutations. J'ignorais que j'aurais l'honneur de le trouver ici. Monsieur me rendrait un bien grand service en cachant entièrement à madame Verdurin et à ses invités le genre de profession que mon père a exercé chez votre oncle. Il vaudrait mieux dire qu'il était dans votre famille l'intendant de domaines si vastes que cela le faisait presque l'égal de vos parents.
Cela me contrarie. Non de grandir la situation de votre père, ce qui m'est tout à fait égal, mais la fortune du mien, ce que je trouve ridicule. Comme dit ma femme, ce sont des ennuyeux, mais je vais le faire. Vous avez ma parole.
Dès que j'eus parlé à madame Verdurin, le respect de Morel à mon égard s'envola comme par enchantement.
Je suis contente que le père de notre Morel ait été si bien. Mais c'est de peu d'importance, car ici, nous n'apprécions que la valeur propre. Pourvu qu'on soit d'art, le reste importe peu.
Voilà un extrait du téléfilm de Nina Compagnie, une adaptation de La Recherche de Proust. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le narrateur fréquente surtout la grande bourgeoisie parisienne en pleine ascension dans le premier volume de La Recherche. C'est une bourgeoisie qui est envieuse du prestige social qui est toujours attaché à l'aristocratie, Clément Paradis.
Il y a une forme de concours dans La Recherche du Temps Perdu et le roman met en scène une forme de compétition des salons. Alors, il y a deux côtés dans La Recherche du Temps Perdu. Tout le monde le sait. Il y a le côté de chez Swann et il y a le côté de Guermantes. C'est des côtés esthétiques et c'est aussi une forme de sociologie du roman. Le côté de chez Swann, c'est le côté de la bourgeoisie. Le côté de Guermantes, c'est la haute aristocratie. Tous ces gens-là tiennent des salons dans lesquels ils invitent des artistes, etc. Et les salons sont plus ou moins prestigieux. Et Madame Verdurin, elle voudrait bien avoir un salon aussi prestigieux que les salons Guermantes. Et petit à petit, elle va coopter tout un tas d'artistes émergents qui vont devenir des grands noms de la place parisienne et qui vont lui permettre eh bien, de faire la compétition avec le prestige aristocratique sur le plan de la culture.
Alors c'est ça qui est effectivement inattendu, en tout cas pour moi, quand j'ai préparé cette émission, cette idée, Clément Paradis, que vous exprimez, selon laquelle l'aristocratie connaît une véritable défaite culturelle par rapport aux bourgeois, c'est-à-dire que c'est par la culture et l'art que la bourgeoisie compte effectivement concurrencer l'aristocratie.
C'est très particulier effectivement parce que on a une aristocratie dont on sait quand on lit même pas entre les lignes de La Recherche que elle est désargentée, mais elle brille, elle resplendit par son histoire. La bourgeoisie n'a pas d'histoire, le capital n'a pas d'histoire, mais le capital peut acheter de la culture et c'est ce que va faire Madame Verdurin. Et évidemment, il y a toujours l'ambition d'atteindre les hautes sphères. Et pour atteindre les hautes sphères, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on monnaie son argent contre du prestige. Et c'est pas une nouveauté du capitalisme, hein, c'est des choses qui avaient cours depuis le Moyen-Âge, l'achat de titres, et finalement c'est encore ce à quoi on assiste dans À la recherche du temps perdu, des mariages bien arrangés qui arrangent les deux parties et qui constituent la mondanité.
Sauf que là où les aristocrates continuent de financer des artistes attachés à la musique de salon ou à la musique classique, les bourgeois contrôlent le marché de l'art contemporain, Cécile Leblanc.
Oui, alors c'est là le point sur lequel on pourrait peut-être prendre Proust en défaut de réalisme. Et on le voit bien parce que dans le premier roman qu'il a écrit avant 1911, celui qui a été refusé par tous les éditeurs, il avait donné une version beaucoup moins méchante à l'égard de l'aristocratie et prenant en compte justement le rôle réel de l'aristocratie, par exemple dans le mécénat contemporain. Puisque à l'époque, l'État ne finance pas la musique, on finance juste l'opéra ou les grands théâtres. Et donc, c'est essentiellement l'aristocratie qui finance, hein, Madame Gréful, la princesse de Polignac, etc. Et donc, dans le deuxième roman, celui qui réécrit, qui sera publié à partir de 1913, il est revenu là-dessus en donnant finalement à l'aristocratie le mauvais rôle, c'est-à-dire qu'en fait, on joue dans leur salon des musiques bon, qui sont des grands classiques, hein, mais finalement pas très intéressantes, alors que c'est en effet Madame Verdurin qui va chercher l'art contemporain, l'ultra-contemporain, elle le dit bien, à Vinteuil est joué chez eux, parce que c'est un grand maître contemporain et qu'il est prestigieux.
Donc ce n'est pas vrai de dire que l'aristocratie était véritablement dépassée par les nouveautés artistiques
non.
de l'époque.
Non, non, ça je pense que historiquement ça n'est pas vrai, ne serait-ce que parce que Poulenc, Debussy, Ravel ont été financés par les grandes aristocrates et même jusque dans les années 20-30, hein, Marie-Blanche de Polignac, etc.
Et alors pourquoi cette volonté de Proust, selon vous, d'exagérer ce déclin de l'aristocratie?
Je pense que c'est justement son aspect anticapitaliste, si l'on veut, hein, ou satiriste, c'est-à-dire que il va montrer les aristocrates et les gens fortunés pires qu'ils ne sont. À tel point qu'à un moment, ça devient presque une caricature. Hein, cette duchesse de Guermantes qui raconte bêtise, sur l'art, sur la musique, sur tout, d'une certaine façon.
Mais est-ce que le capitalisme n'est pas plutôt du côté des Verdurins, du côté de la bourgeoisie ascendante, Cécile Leblanc?
Pas forcément, parce que justement, il y a des aristocrates qui possèdent toutes les actions du canal de Suez. Donc, tout ça n'est pas simple, si vous voulez. Il n'y a pas de véritable... Enfin, c'est pas blanc et noir.
C'est Clément Paradis sur cette exagération de ce recul de l'aristocratie qui ne s'intéresserait pas aux artistes contemporains.
Je dirais que Proust a une lecture un peu dialectique de ce conflit entre aristocrates et grands bourgeois, parce que ce que la recherche nous enseigne, en fait, c'est que tout ça, au final, ça peut être regroupé sous une catégorie qui est la mondanité. Je dirais que là, Proust a une lecture dialectique. Les aristocrates surjouent leur aristocratie, alors qu'en fait, ils sont déjà en train d'investir partout dans le monde en achetant des titres à qui mieux mieux. Les bourgeois surjouent leur individualité dans le roman, alors qu'en fait, ils ne rêvent que de faire de beaux mariages et d'aller se faire coopter par l'aristocratie. Et à la fin, qu'est-ce qu'on lit à la fin de La recherche du temps perdu? C'est qu'on se retrouve dans le salon des Guermantes, le nouveau salon des Guermantes, et qui est un sommet de l'aristocratie, mais en fait, la moitié de ces gens-là sont des anciens bourgeois qui ont fait des mariages, qui ont changé de nom.
Donc, notamment Madame Verdurin.
Notamment Madame Verdurin, qui est devenue la nouvelle princesse de Guermantes. Et en fait, on peut se demander si tout ça n'était pas une comédie depuis le début.
Ce que l'on comprend, effectivement, c'est que la bourgeoisie et l'aristocratie ont besoin l'une de l'autre, Cécile Leblanc, et qu'il y a du coup une porosité de plus en plus forte entre ces deux mondes.
Oui, parce que la Première Guerre mondiale a bouleversé absolument tout ça. Donc, de toute façon, il y a eu une sorte de cataclysme social qui fait que les classes, d'une certaine façon, ont pu se mélanger, favorisées par les transferts d'argent, les basculements de fortune, etc. Donc, effectivement, c'est parce que le prince de Guermantes est ruiné par la guerre franco-allemande qu'il va se tourner vers Madame Verdurin, mais qui, entre-temps, s'est recyclé duchesse de Duras et devient acceptable pour un prince de Guermantes. Donc là aussi, il y a un jeu de masque, hein, de même que la bourgeoisie juive, bon, Swann était accepté dans la société, mais de temps en temps, il y avait des remarques désagréables. Bon, l'ami Bloch a beaucoup de mal, l'ami du narrateur Bloch a beaucoup de mal à s'intégrer, alors qu'il est ultra snob, et c'est au moment où il va s'appeler Jacques Durosier, qu'il va véritablement intégrer les salons du temps retrouvé.
Et alors il y a Madame Verdurin, mais il y a aussi le personnage d'Odette qui constitue peut-être le symbole de cette porosité entre les deux mondes. Clément Paradis, est-ce que vous pouvez nous présenter ce personnage qui est central dans La recherche du temps perdu?
Oui, tout à fait, c'est le personnage central, enfin c'est un des personnages centraux de la recherche et qui est, c'est peut-être la réussite la plus fulgurante. Parce que... Les 3500 pages la font revenir perpétuellement et narrent son aventure à divers stades de sa vie. On apprend au détour d'une anecdote qu'elle a eu une enfance absolument catastrophique, elle a été vendue par ses parents. Et puis on la retrouve amante de Swann. On la retrouve cocotte en fait, donc c'est quelqu'un qui pratique une forme d'amour tarifé. Elle s'entiche de, ou plutôt Swann s'entiche d'Odette. Et au contact de Swann, Odette va polir sa culture. Swann est le fils d'un agent de change aussi, donc elle s'enrichit un petit peu et puis elle perfectionne sa culture. Puis on la retrouve avec un homme qui s'appelle De Crécy, qui est très fortuné. On nous dit qu'elle finit par le ratisser. Donc elle lui pique toute sa fortune. Ah oui, le pauvre de Crécy finit
complètement
sans
ruiné.
Odette et ruiné. Et ça lui permet de faire un beau mariage avec une assez haute aristocratie, le comte de Forcheville. Et donc Odette devient comtesse de Forcheville, ce qui lui permet, fort de ce nouveau titre, de marier sa fille à un héritier des Guermantes. Et voilà, Odette devenue et un membre à part entière de la famille Guermantes à la fin du roman.
Ce que l'on comprend, c'est que chez Proust, Cécile Leblanc, l'ascension sociale est le fruit d'une volonté de réussir. C'est ce qui a permis à Odette de gravir les échelons de la société.
Oui, une certaine finesse aussi dans la manipulation des hommes en particulier, puisque... C'est un peu comme Madame Verdurin, c'est-à-dire qu'elle les choisit, elle monte une sorte, un ascenseur social, et qui est lié aussi à l'art, parce que Odette va se lier à des artistes, fréquente Bergotte, et donc l'art dort aussi cet ascenseur social, si je puis dire. C'est la même chose d'ailleurs que Morel, le violoniste Morel, dont on parlait il y a quelques minutes. Morel est aussi le fils d'un domestique, il supplie le narrateur de ne pas le révéler quand il pénètre dans les salons, et c'est grâce à son titre d'élève du conservatoire et de violoniste attitré ensuite de Monsieur de Charlus et amant accessoirement. Donc on monte par le canapé et par l'art, si j'ose dire. Hein, et Odette, c'est ça.
Et ce sont de rares exemples d'apparitions de personnages qui sont issus de la classe populaire. Il y a aussi les domestiques, notamment Françoise, qui joue un rôle essentiel dans la recherche, Clément Paradis.
Oui, Françoise, on la suit. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir que Françoise, elle apparaît dans le roman déjà à travers une affaire d'argent. Au début, c'est la cuisinière de la tante du héros. Et comment le héros la rencontre ? Eh bien, à travers les étrennes. Il va voir sa tante pour le 1er janvier, et la mère du héros lui donne une pièce de 5 francs et lui dit « C'est toi qui vas donner les étrennes à Françoise, ne te trompe pas de personne. » Et la première rencontre, c'est l'argent, c'est une pièce qui est donnée, et après cet échange-là, eh bien, Françoise ne quittera plus le héros. Elle deviendra la gouvernante qui va l'accompagner et lui donner quelques leçons de vie, qui va se méfier de ses fréquentations. Et puis, elle l'accompagnera jusque dans son activité d'écriture.
En revanche, les grands absents de l'œuvre de Proust, Cécile Leblanc, ce sont les ouvriers.
Alors, oui. Parce que le milieu que décrit la recherche n'implique pas en effet véritablement la présence des ouvriers.
Mais qui explique peut-être la critique qui a été faite à Proust d'être un écrivain un peu hors sol, un peu déconnecté.
Oui, enfin oui et non, parce que il y a chez Proust d'abord les domestiques qui représentent quand même une part importante et dans la société de l'époque beaucoup d'emplois. Tous les artisans, les marchands ambulants, les petits métiers parisiens. Donc, et puis il y a cette scène presque insoutenable, hein, des pauvres qui par les vitres, vous parliez de l'aquarium au début de l'émission, hein, qui observent les riches scotchés aux vitres du grand hôtel de Balbec. Donc cette présence hors dans le froid. Des pauvres hein, de Balbec est extrêmement dans la lignée des romans réalistes.
Et toujours chez Proust, on trouve ce goût de l'esthétisme comme pour les actions et les titres de bourse dont on parlait tout à l'heure. C'est la beauté des jeunes filles de la haute société qui frappe le narrateur. Ce n'était peut-être pas, dans la vie, le hasard seul qui, pour réunir ses amis, les avait toutes choisies si belles. Peut-être la classe à laquelle elles appartenaient, et que je n'aurais pu préciser, était-elle à ce point de son évolution où, soit grâce à l'enrichissement et aux loisirs, soit grâce aux habitudes nouvelles de sport, répandues même dans certains milieux populaires, et d'une culture physique à laquelle ne s'est pas encore ajoutée celle de l'intelligence, un milieu social pareil aux écoles de sculpture harmonieuses et fécondes, qui ne recherchent pas encore l'expression tourmentée, produit naturellement et en abondance de beaux corps aux belles jambes, aux belles hanches, aux visages sains et reposés, avec un air d'agilité et de ruse. Et n'était-ce pas de nobles et calmes modèles de beauté humaine que je voyais là, devant la mer, comme des statues exposées au soleil sur un rivage de la Grèce ? Clément Paradis, qu'est-ce que cet extrait sur la beauté des jeunes filles nous dit aussi sur les nouvelles habitudes de consommation de la haute société ?
Eh bien, beaucoup de choses. C'est un extrait qui est assez frappant quand on le lit. On peut avoir un effet de recul parce qu'on se dit attention, qu'est-ce qui se passe? Marcel Proust nous fait une analyse de classe. Il utilise ce terme c'est encore la preuve qu'on reste pas dans la dualité de la haute bourgeoisie et de la haute aristocratie. Il nous décrit l'émergence de quoi? D'une classe de loisirs. Et cette classe de loisirs, il l'analyse d'une manière mécaniste. On se croirait dans un ouvrage de sociologie presque marxiste ou chez Veblen. Il nous dit, c'est quasiment mécanique en fait. Vous prenez des gens bien nourris, des gens qui ont des nouvelles habitudes de sport, qui s'entretiennent autrement, qui ne sont pas à s'affadir et à s'affaisser dans les salons. Mécaniquement, ça fait des beaux corps, ça fait des petits regards rusés et ça fait des choses qui sont très plaisantes pour lui. Donc, ça crée une nouvelle esthétique bourgeoise.
Et une critique sociologique aussi est possible, est à retrouver dans cette critique de la mondanité, qui pour lui est un théâtre de l'apparence. Le narrateur est lassé par ces faux-semblants qu'il retrouve en particulier du côté de l'aristocratie soucieuse de maintenir son rang, Cécile Leblanc.
Oui, parce que justement, on est frappé dans l'extrait que vous venez de lire quand il dit qu'il ne saurait pas dire à quelle classe elles appartiennent. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que justement, c'est en effet ce loisir, ce sport, ces vacances en quelque sorte, à Balbec, Albertine avec ses belles jambes parce qu'elle fait du vélo. Donc, tous ces éléments sont extrêmement frappants parce qu'ils brouillent aussi le vieux rapport de classe bourgeoisie-aristocratie. D'ailleurs, les jeunes filles, ce sont des bourgeois, certaines viennent d'un milieu pas forcément très très facile à repérer, Albertine elle-même. Et donc, on ne saurait plus dire à quelle classe elles appartiennent.
Ça en dit long, effectivement, sur les frontières mouvantes au tournant du 19e et du 20e siècle, frontières mouvantes entre les classes. Et puis, ce que critique le narrateur, c'est l'hypocrisie de cette société, hypocrisie qu'il constate dans Sodome et Gomorre lorsqu'un soir de bombardement, durant la Première Guerre mondiale, il trouve refuge dans un hôtel du centre de Paris, qui est en réalité une maison de passe tenue par Jupien, l'amant du baron de Charlus, Clément Paradis.
Oui, c'est une scène absolument poignante qui va être un des éléments déterminants du temps perdu puis du temps retrouvé. Proust, effectivement, le narrateur, le héros, se retrouve coincé dans cette maison de passe dans un Paris plongé dans l'obscurité, et il observe vraiment ce qu'il ne pensait jamais voir de sa vie, c'est-à-dire le baron de Charlus, grand homme de l'aristocratie, qui s'adonne à des plaisirs sadomasochistes. Et il reste comme ça pendant le temps de l'alerte dans cette maison de passe, et il croise à ce moment-là, justement, les ouvriers dont vous parliez tout à l'heure, et ces ouvriers qui sont venus, tristement, chercher un complément de salaire à travers la prostitution. Et il s'aperçoit, jeu du hasard, que le tenancier de cette maison de passe, c'est Jupien, qui était le voisin de ses parents, un giletier. Et Jupien est un peu catastrophé de se voir pris dans ce bourbier, et il vient l'interpeller à sa sortie du bordel et lui dit, quelque chose comme, il faut pas me juger, j'ai aussi des clients respectables, mais vous comprenez, si on ne servait que les clients respectables, on mettrait la clé sous la porte. Et c'est le code de la mondanité qui est donné là au héros, c'est on vit dans un monde où la vertu ne survit grâce au vice.
Et le narrateur de décrire une maison de vente où l'argent circule partout, pour parler de cette maison de passe. Et ce qui est problématique aussi pour lui, c'est le fait que cette société vive en vase clos. Le narrateur utilise donc cette métaphore de l'aquarium qu'on a déjà évoquée pour décrire l'hôtel de Balbec. Je me permets de vous lire cette citation qui est assez intéressante, citation en puisqu'il parle d'un merveilleux aquarium devant la paroi de verre duquel la population ouvrière de Balbec, les pêcheurs et aussi les familles de petits bourgeois s'écrasaient au vitrage pour apercevoir la vie luxueuse de ces gens aussi extraordinaires pour les pauvres que celle de poissons et de mollusques. Cet entre-soi est aussi dénoncé par le narrateur Clément Paradis.
Oui, à la fin du roman, il est dénoncé. En fait, il y a d'abord, au début du roman, la fascination pour cet entre-soi parce qu'on en est exclu, mais une fois qu'on a traversé ce temps de la mondanité, on s'aperçoit que c'est un temps perdu et il faut en faire quelque chose.
Le narrateur qui rejette dans Le temps retrouvé l'idée d'un art populaire.
«
L'idée d'un art populaire comme d'un art patriotique, si même elle n'avait pas été dangereuse, me semblait ridicule. S'il s'agissait de le rendre accessible au peuple en sacrifiant les raffinements de la forme, bon pour des oisifs, j'avais assez fréquenté de gens du monde pour savoir que ce sont eux les véritables illettrés et non les ouvriers électriciens. À cet égard, un art populaire par la forme était destiné plutôt aux membres du jockey qu'à ceux de la Confédération Générale du Travail. Quant au sujet, les romans populaires ennuient autant les gens du peuple que les enfants ces livres qui sont écrits pour eux. On cherche à se dépayser en lisant, et les ouvriers sont aussi curieux des princes que les princes des ouvriers. C'est un texte extrêmement intéressant que vous nous avez transmis, Clément Paradis, et sur lequel je voulais conclure cette émission. Qu'est-ce qu'il nous dit, selon vous, de cette distance qui a été prise par le narrateur vis-à-vis de la haute société, qui le fascinait tant à ses débuts ?
On a affaire à un rejet catégorique qu'on attendrait même pas sous la plume de Proust, c'est-à-dire voilà cette mondanité, ce sont des illettrés. Il y a plus rien à en attendre et il y a une leçon esthétique en fait à tirer de ça. C'est là qu'on pourrait se dire ah il va sombrer dans le désespoir, il va sombrer dans une critique sociologique. Non, il y a une leçon esthétique à en tirer, c'est que on n'écrit jamais pour ceux qu'on croit. La réception n'est jamais celle qu'on croit. Tout peut toujours se retourner d'une autre manière. On croit écrire des romans populaires, on écrit pour le Jockey Club. On croit que les gens de la Confédération Générale du Travail, qui fait une apparition à la fin de la CGT, à la fin à la recherche du temps perdu, on s'y attendrait pas. Eh bien en fait, ce sont pas les illettrés qu'on pourrait croire. Donc, quelque chose s'ouvre et la possibilité de l'écriture apparaît.
Et il faut, selon Proust, non pas écrire pour son temps, mais écrire peut-être pour la postérité. Cécile Leblanc, un dernier mot sur l'économie et la société, selon Proust, dans La recherche du temps perdu.
Oui, je crois que, ce que Proust explique bien dans ce texte, c'est qu'il n'y a qu'une littérature, en fait. Il n'y a pas des genres, il n'y a pas de la littérature populaire, de la littérature pour les riches, de la littérature rose, etc. Il y a une littérature et c'est celle qui survit. Hein, la vraie vie, c'est la littérature. Et que donc, c'est un des grands débats qu'il a eu avec Romain Rolland, hein, et avec beaucoup d'autres qui lui disaient qu'il ne faisait pas de roman socialiste d'une certaine façon, alors même qu'il avait une vision critique de la société. Mais c'est parce que justement, si on vise un public, eh bien, on n'écrit que pour ce public et forcément on se démodera. Donc, la littérature, c'est la seule chose qui compte.
Un grand merci, Clément Paradis et Cécile Leblanc, de nous avoir emmenés dans les salons de la haute société, de l'aristocratie, de la bourgeoisie, tout au long de cette émission. Cécile Leblanc, je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence en littérature à l'Université Sorbonne Nouvelle, et Clément Paradis, enseignant en esthétique à Sorbonne Nouvelle également. Un grand, grand merci à tous les deux.
Merci à vous.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiphaine de Roquigny.
Et c'est l'heure de retrouver votre chronique quotidienne, le pourquoi du comment. Cette semaine, c'est avec Mathilde Dupré.
Combien coûte l'évasion fiscale ? Bien malin celui qui peut donner une réponse simple et claire à cette question, car l'évasion fiscale est par nature difficile à qualifier et à quantifier. Commençons peut-être par la fraude fiscale. Celle-ci désigne la violation par un individu ou une personne morale des lois fiscales de son pays, afin d'échapper au moins partiellement à l'impôt. Je ne déclare par exemple pas tous mes revenus ou je dissimule des avoirs sur un compte à l'étranger. On chiffre en France la fraude entre 80 et 100 milliards d'euros par an, selon les estimations du syndicat national Solidaire Finances Publiques, extrapolées à partir des données du contrôle fiscal. L'évasion fiscale renvoie quant à elle à l'évitement de l'impôt par l'utilisation des failles du système fiscal. Ces stratégies ont souvent une dimension plus internationale et reste une partie du temps inscrite dans un cadre légal. Pour le dire autrement, les auteurs de l'évasion fiscale exploitent les différences de législation fiscale entre les États. Je crée par exemple une filiale en Irlande qui gère la marque de mon groupe et j'y transfère artificiellement des bénéfices qui seront ainsi moins taxés. Pour reprendre une célèbre expression utilisée par Denis Healey, ministre des Finances britanniques dans les années 70, la différence entre la fraude et l'évasion fiscale se réduit à l'épaisseur d'un mur de prison. Voilà qui ne nous avance guère pour mesurer le phénomène. Dans ce domaine, les travaux en économie sont récents. Je n'en ai par exemple jamais entendu parler pendant mes 2 années de master en économie du développement international entre 2005 et 2007. Et quand je suis devenue chargée de plaidoyer pour une ONG française au début des années 2010 sur le sujet, je me souviens que les gouvernements européens avaient tendance à nous répondre que l'évasion fiscale des entreprises multinationales était un problème de pays pauvres, dont les administrations fiscales seraient défaillantes ou corrompues. Il aura fallu attendre la crise financière, l'agressivité croissante des comportements des entreprises et la mobilisation citoyenne pour que ce discours évolue peu à peu. Et ce n'est qu'en 2011 qu'un rapport du FMI a enfin reconnu clairement le défi posé par l'habileté des entreprises multinationales en matière d'optimisation, y compris pour les administrations fiscales des pays les plus riches. À l'échelle internationale, 35% des profits des multinationales sont délocalisés artificiellement dans les paradis fiscaux, d'après les travaux de Gabriel Zucman, directeur de l'Observatoire européen de la fiscalité, et ses co-auteurs Thomas Torslov et Ludwig Wier. Une situation d'ailleurs relativement stable entre 2015 et 2018, en dépit des efforts de la communauté internationale. Les trois destinations plébiscitées par les multinationales sont Singapour, l'Irlande et la Suisse. Ces pratiques engendrent un manque à gagner moyen pour les États de l'ordre de 10% de leurs recettes fiscales liées à l'impôt sur les sociétés. En France, ce serait même de l'ordre d'un quart, et un tiers en Allemagne ou au Royaume-Uni. De son côté, le Tax Justice Network estime la perte mondiale des recettes fiscales à près de 245 milliards de dollars par an du fait de l'évasion fiscale des multinationales. Mais il faudrait aussi ajouter des pertes indirectes liées à la concurrence et à la course vers le moins-disant fiscal, qui selon le FMI pourrait être trois fois plus importante que les pertes directes. Par ailleurs, le Tax Justice Network nous invite aussi à prendre en compte les recettes perdues du fait des montages utilisés par les grandes fortunes pour dissimuler leurs actifs à l'étranger. Environ 182 milliards de dollars par an. Si l'évasion fiscale n'est pas un problème spécifique aux pays pauvres, il y a toutefois une vraie dimension nord-sud dans ces pratiques. En valeur, l'évasion fiscale est plus forte dans les pays riches. Mais en proportion de leurs revenus, les pays à faible revenu perdent presque deux fois plus que les pays à revenus élevés. En outre, les paradis fiscaux sont situés dans les pays riches. La quasi-totalité des pertes fiscales dans le monde est donc facilitée par des pays à revenus élevés, parmi lesquels une poignée se taille la part du lion. Ainsi, plus d'un tiers de ces pertes fiscales sont rendues possibles par la toile d'araignée britannique, à savoir le Royaume-Uni et son réseau de territoires d'outre-mer et de dépendances de la couronne. Et si on ajoute à cette toile d'araignée les Pays-Bas, la Suisse et le Luxembourg, on monte à plus de la moitié des pertes fiscales mondiales.
Me show them heroes, feel it. We are the younger, the hunger. Me show the heroes, feel it. Alright, one more time. Me show them heroes, feel it. We are the younger and the hunger. Me show them heroes, feel it. We are the younger and the hunger.
Holy water, crying like the old time. Your desire, freedom from the Maya, Maya.
C'est la fin d'Entendez-vous l'écho. On se quitte avec le dernier titre d'IBI, Made of Gold. Demain, quel était le rapport de Marcel Proust à l'argent? Nous poserons la question à Michel Herman et Jacques Letertre. L'émission d'aujourd'hui est à retrouver sur l'appli Radio France dans le podcast exceptionnel que France Culture dédie à Proust à l'occasion du centenaire de sa mort. Et puis un rendez-vous à noter dans vos agendas. France Culture et Arte vous accueillent lundi prochain, le 29 novembre, à la Maison de la Radio pour le festival Et Maintenant, festival international des idées de demain. Des rencontres, des ateliers, des projections et des émissions en direct vous attendent à partir de 9h. L'enregistrement d'Entendez-vous l'écho aura lieu justement à 9h et sera ensuite diffusé à son horaire habituel à 14h. On vous attend nombreux. My son showed him passion.